La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Salut Sba.
Salut. Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va.
Et toi, ça va?
Ça tourne.
Là, on va donc au lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Galles, qui est un lycée qui dessert l'agglomération de Vienne. Donc Michel Wilson, je suis né en Algérie, à Alger, et je suis président d'une association qui s'appelle Coup de Soleil en Rhône-Alpes, qui a 20 ans à la fin de l'année, là. Eh bien, on va faire comme on a fait déjà plusieurs fois par le passé, on va rencontrer des lycéens, on va leur présenter des témoins de la guerre d'Algérie, en l'occurrence Sba Berbaghi, qui est un ancien Moudjahid, et Bernard Gerland, qui est un ancien appelé du contingent. Ils ont à peu près le même âge, et ils vont parler de leur mémoire, de leur vécu dans cette guerre d'Algérie.
Et ils sont en voiture avec vous.
Et ils sont en voiture avec nous.
Bernard Gerland et Sba Berbaghi témoignent ensemble dans les lycées de la région lyonnaise. Ils racontent leur guerre d'Algérie. Sba est un ancien combattant algérien du Front National de Libération et Bernard, un ancien appelé français. Il leur a fallu des années pour en parler, pour témoigner et pour oser évoquer leur expérience de la torture et des exécutions sommaires. Ennemis d'hier, ils sont aujourd'hui guidés par une même volonté de se réconcilier avec leur passé. Algérie, deux ennemis, une réconciliation. C'est un reportage de Daphné Gastaldi pour La Marche du Monde.
On va traverser, il y a le musée, voilà, on va longer le musée, et après le musée, il y a le lycée.
On revient à l'école.
Ah ouais. Eh bien, on arrive au lycée où nous allons œuvrer. Et donc, on va chercher le professeur qui a préparé ses élèves, M. Joinard. J'aime beaucoup parce que ça nous donne une raison d'être encore là, nous, les plus anciens. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un exercice intéressant. Parce que, sans qu'on leur apprend des choses... qu'on les aide à réfléchir, voilà. Et puis, eux nous en apprennent aussi, de par leurs remarques, de par leurs questions, de par leurs réflexions.
Joinard, vous êtes professeur d'histoire ici. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention d'un ancien soldat français et d'un ancien moudjahidine?
En fait, il s'agit de montrer que l'histoire... c'est quelque chose qui fait intervenir des personnalités qui vont les vivre, qui vont être un petit peu ballottées par les événements. Alors que quand on regarde la façon dont ces événements se sont passés, on en a une vision qui a été un petit peu reconstruite après coup. Mais ceux qui ont vu les événements qui étaient perdus au milieu, qui ont parfois des raisons très diverses qui les ont motivés à s'engager, ils peuvent avoir une vision complètement différente. Et ça fait partie aussi de l'histoire que de traiter cela. Bonjour, entrez.
Bonjour.
Alors, une séance très particulière aujourd'hui, puisqu'on a la chance de voir intervenir des témoins de la guerre d'Algérie.
À la fin des années 50, Sba et Bernard étaient adolescents, tout comme les lycéens venus les écouter aujourd'hui. Mais si en Algérie, la jeunesse est éduquée dans le culte des martyrs de sa guerre d'indépendance, en France, le sujet reste tabou dans les familles. Les grands-pères ou les grands-oncles, appelés pour effectuer leur service militaire en Algérie, sont très peu à raconter.
À l'époque où le service militaire était obligatoire en France, et comme tous les jeunes de cette génération, pratiquement, il a été obligé d'aller servir en Algérie.
Oui, alors on a fait la même guerre, mon camarade Sba et moi. On a fait la même guerre, lui il l'appelait. En Algérie, ça s'appelait la guerre d'indépendance, guerre de libération du pays. Et nous, en France, on l'appelait même pas guerre d'Algérie à l'époque. On disait, il y a des escarmouches par là-bas, il y a des événements dont on ne sait pas exactement ce qu'il y a. On parlait de rebelles. On parlait de bandits qui allaient attaquer la France, etc.
La foule loose.
J'ai fait aussi des grandes opérations. La fin de l'opération jumelle, j'ai participé à des opérations.
Voilà, opération jumelle, oui. 45 000 soldats autour des montagnes. Les avions, tu ne vois pas le ciel. Les avions de chasse, les bombardiers, la marine, les bâtiments de guerre. Après, il y a eu des morts incroyables de côté.
Si tu n'avais pas été torturé, est-ce que tu étais partisan de l'indépendance de l'Algérie ?
Ah bah, j'étais encore gamin, j'étais même pas participé, rien.
Alors moi j'aurais été un héros, un petit héros, si quand on nous amenait le prisonnier, si j'avais dit non, c'est contraire aux lois de la guerre, ce gars libère son pays, je refuse. Ça n'aurait rien changé au prisonnier. Il aurait été abattu par quelqu'un d'autre que moi. Mais peut-être que j'aurais fait réfléchir des gens autour de moi. Là, j'aurais été un petit héros.
Je m'appelle Kevin Yuri, je suis en terminale ES. Mais aujourd'hui, j'ai appris que les soldats, la plupart, ils n'étaient pas d'accord de ce qui se passait là-bas. Et que la plupart regrettent leurs actions et ce qui s'est passé.
Quel a été le passage le plus fort des témoignages de Sba Berbagui et de Bernard Gerland que vous avez entendu ?
Le monsieur d'origine algérienne, je pense que c'est quand il s'est fait torturer. Enfin, c'était un passage assez fort.
Je m'appelle Elisa Amalou. Le témoignage sur les corvées de bois, j'avais jamais entendu ça. C'était une excuse que l'on donnait aux prisonniers. Et on leur disait qu'ils allaient ramasser du bois alors qu'on les tuait dans le dos. Je trouve ça vraiment intéressant, ça nous permet de voir de tous les côtés, tous les parties de cette guerre. C'est ce qui peut amener à arriver à la vérité finalement et à développer les mémoires au cours du temps.
Je m'appelle Robin Jamon et je suis en terminale ES1 à Saint-Romain. Il y a les oppositions entre les deux camps et je trouve ça intéressant. Enfin, c'est deux gens qui ont été opposés pendant une époque et là ils arrivent à communiquer ensemble et je trouve ça intéressant. Enfin, de les voir serrer la main, ça fait un espèce de... Enfin, genre, c'est fini et que maintenant, ils sont plus autour de ça et ils arrivent à passer à autre chose et qu'ils aillent ensemble de l'avant, c'est cool.
Si Bernard Gerland et Sba Berbagui ont choisi de venir se présenter devant les lycéens afin de livrer ensemble leur expérience, c'est parce qu'ils ont beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur leurs guerres respectives. Chez Sba Berbagui, le processus de récupération de sa mémoire a été enclenché par les questions de sa fille Dalila. Dalila en a fait un livre intitulé « Guerre d'Algérie, destin croisé ».
Oui, Dalila, là je vois la porte. Allez, viens. Voilà, ma fille, les ministres, les bonjour. Voilà, papa, depuis 3 mois. Oh, ma fille.
Ça va?
Ça va, alhamdoulilah.
Bien.
Ça va, très bien.
Bonjour.
Mon père, c'est un immigré algérien, comme beaucoup d'autres immigrés algériens, qui est venu en 1961. Il s'appelle donc Sba Berbagui. Et il est originaire donc d'un petit village donc qui est juste à côté de Sétif. Hein, la grande ville c'est Sétif. Le tout petit village où il est né c'est Wetchir. Donc il est d'une origine rurale où il a été donc lui-même donc fils de berger et lui-même aussi berger avant de s'engager dans la guerre d'Algérie puis d'arriver en France.
Dalila Berbagui, cette histoire, l'histoire de votre père en fait, vous l'avez découverte grâce à un documentaire. Quand est-ce que c'était ?
Ce documentaire c'était donc en mars 2002. Un documentaire réalisé par Patrick Rothman, L'ennemi intime, qui traite donc en grande partie de la torture pendant la guerre d'Algérie. Et effectivement, c'est ce documentaire qui a été le déclic du témoignage de mon père, puisque c'est après l'avoir regardé ensemble à la télé, c'était diffusé sur France 3, que mon père m'a livré en fait son premier vrai témoignage sur la guerre d'Algérie. Et je ne savais pas du tout qu'il avait été torturé pendant la guerre, et c'est là qu'il en a parlé pour la première fois.
Et c'était douloureux pour lui de vous parler, de raconter ces épisodes de guerre ?
Alors particulièrement la première fois, parce que comme c'était la première fois qu'il en parlait, qu'il livrait ce témoignage, j'ai le souvenir que sa voix était tremblante, qu'il était un peu hésitant, qu'il n'était pas bien quand il en parlait. Donc on sentait qu'il y avait en fait cette douleur de ce qu'il avait vécu, de cette torture pendant la guerre d'Algérie qui remontait à la surface.
Après l'émeute et les massacres, les forces de l'ordre, aidées par les milices pieds noirs, organisent la riposte. À Aïn Abid, le 22 août, on exécute sans sommation devant les caméras. Philippeville, les paras ratissent. Des centaines de suspects sont raflés et emmenés au stade.
Donc je m'appelle Dalila Berbaghi, je suis professeure d'histoire-géographie en région parisienne et j'ai écrit effectivement un livre qui raconte la rencontre entre mon père, qui a fait la guerre d'Algérie, avec Adolphe, un ancien soldat français. Et ils étaient en fait sur le même secteur pendant cette guerre. Donc c'est « Guerre d'Algérie, destin croisé ». Entre guillemets, voyage de réconciliation entre un Falaga et un appelé français. Alors Falaga, effectivement, il y a une connotation qui est très péjorative, hein, puisque ça signifie globalement, c'était l'idée en fait de terroriste, de coupeur de route. Il y avait plusieurs options en fait pour trouver un titre qui puisse être compris de tous. C'était soit Falaga, soit c'était Mujahideen. Soit c'était combattant de l'ALN. Et c'est vrai que alors Mujahideen, il y a une connotation en fait aujourd'hui très péjorative, une connotation actuelle péjorative. Et pour Falaga, c'est une connotation du passé péjorative. Mais en même temps, elle parle à ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie et qui l'ont connue de près ou de loin. Quand j'ai utilisé ce terme devant mon père, et lui-même l'utilisait, bon, c'est pas le terme qu'il utilise le plus, mais en tout cas, c'est un mot qu'il employait aussi, et lui, ça ne l'a pas choqué. Il l'assume, en fait.
Je m'appelle Sba Berbaghi. J'ai 70 ans, 78 ans.
D'où vous êtes originaire en Algérie, Sba?
J'habite à El Mouricia, la région de Sétif. Sétif, c'est dans le nord, Sétif, dans le nord d'Algérie, côté de Constantine. Moi, je commence à travailler à 12 ans. Je travaille chez les colons. Les Français, chez les colons, c'est qui l'agriculture, on va travailler chez eux. On a travaillé chez eux, mais avant la guerre, ça. La guerre, elle a commencé en 54. Puis plus tard, nous, on ne savait pas, on était petits, on ne savait pas la politique, on ne savait pas tout ça.
Comment vous avez appris que la guerre avait commencé avec la France ?
À la radio, on n'a rien avant, on n'a que la radio avant, ou par bouche-oreille, comme on appelle ça. Ça, on appelle ça.
Donc l'armée française est venue vous chercher à un moment
pour... Oui, il a envoyé une convocation pour aller à l'armée. Ma mère, elle m'a dit, non, ça ne marche pas, ça. Et puis quand il est arrivé la guerre, ça commençait 57, 58, 59, ça a démarré au fond. Il a démarré bien comme il faut. Et après, un jour, je t'ai dit, ils sont venus circuler le village où j'habite. Ils sont circulés le village et je te dis, il m'a ramené 8 personnes.
Les Français ?
Les Français, les Harkis. Ils sont engagés avec la France, les Harkis, là. Il m'a mis dans le... dans la cour comme ça, 8 personnes. Il me dit, allez chercher ce petit-là, il va me dire la vérité.
En parlant de vous ?
Oui, il parle de moi, oui. Il m'a tout nu. Il m'a posé sur un bassin plein de produits là, pour la vie par terre, là, comment ça s'appelle, grisil, comment ça s'appelle ça. Quand il m'a posé sur le bassin, il me prend sur les pieds, il me tourne sur le machin là.
Et donc votre tête ?
Oui, il va dans le bassin, je bois tous les produits là. La tête, tout, jusqu'à là, dans l'eau. Et puis ça me gonfle, je voulais tout faire, je voulais mourir là, des poisons dedans. Puis il m'a dit, dis-moi la vérité. J'ai dit, moi, je ne connais personne. Il m'a dit, tu connais les Falaga, tu connais les responsables de Falaga. J'ai dit, écoute, moi, je ne connais rien. Je suis berger, je ne connais rien du tout. J'ai dit, moi, je suis petit, là. Je ne connais pas la politique, là, je ne connais rien.
Vous aviez quel âge ?
13 ans, je te dis, 13 ans, l'âge de 13 ans. Et on recommence, on descend encore dans l'eau. Et on me tape encore avec le coup de matraque, là. Et le lieutenant français, il tape comme ça là, dans le pistolet pour me faire peur. Trois fois, il m'a mis ça. Après, quand il m'a jeté dans la cour, comme ça, comme un caillou, là. Mort complètement, ça. Parce que si tu parles, quand tu sors de là-bas, les autres arrivent à te couper la tête. Ah, il n'y a pas d'excuses avec eux.
Donc les 8 personnes ont été torturées aussi dans l'eau.
Tous comme moi. Ils sont tous passés comme moi.
Et donc vous décidez de rejoindre le FLN ?
Voilà, c'est ça. J'essayais. J'ai dit, moi, je ne peux pas rester là. Il faut que j'essaye de joindre le Fonds de Libération Nationale pour engager avec le FLN.
Comment vous rejoignez le FLN ?
Je voyais les responsables du village. C'est eux qui joignent l'émission avec le FLN. Dans la montagne, oui. Avec les Moudjahidines, comme on appelle ça, en arabe.
Lorsque vous vous engagez auprès du FLN, vous avez quel âge ?
16 ans. 16 ans j'ai engagé, là. 16 ans j'ai monté. Là.
Lorsqu'ils ont filmé le départ de ces soldats en opération, Jean Lartégui et Pierre Schendorfer ne se doutaient pas que l'un de ces hommes, le dernier à droite, celui qui pousse son camarade, serait le héros de leur reportage. Écoutez-le.
Nous étions engagés dans l'opération Jumelle et nous étions en réserve de portée. Une alerte était déclenchée. Nous avons été héliportés 10 minutes après sur un piton environ à 7 km du PC Artois.
Les hélicoptères ont été largement mis à contribution pour amener les troupes à pied d'œuvre dans la région de Ouled-Rabat. Cette opération héliportée visait à permettre la prise de position rapide dans un secteur aride et montagneux où devait s'effectuer un important ratissage. Plusieurs unités ont ainsi participé à différentes actions qui leur ont permis d'accrocher les rebelles.
De 1959 à 1960, la petite Kabylie est plongée en pleine opération Jumelle qui était menée par le général Challe. Et le but, c'était d'asphyxier les combattants du Front de Libération Nationale, votre camp. Quel est votre souvenir le plus vif de cette période ?
On attendait après. La France, il est venu à cercler 45 000 soldats pour entourer toutes les montagnes. Là. Et puis les autres, ils ont fait un piège. Les Français, les Harkis, tout ça. Et puis, il y a une espèce d'avion qui fait le... Quand ils voient les Moudjahidines, ils voient le FLN.
C'est un avion de surveillance qui s'appelle le Piper.
Voilà, c'est ça. Là, j'ai dit, ça, il arrive, les avions, ils vont nous tuer, là. Une demi-heure après, il arrive les avions. Il y a tous les côtés. On ne voit même pas le ciel. C'est qu'ils bombardent. C'est l'avion de chasse. On a vraiment une catastrophe. Pendant 3 heures, on a 4 heures. C'est le feu, tu vois le feu partout. Et puis on a commencé à attaquer. Là. Peut-être 2 heures, 3 heures, on a 4 heures. Jusqu'à il y a le coucher du soleil. Il y en a qui sont morts. Après, on attendait qu'est-ce qui sont morts. Il y en a 300 morts. 300 personnes étaient mortes. Après l'attaque, là, c'est une catastrophe.
La voix de Sba Berbagui dans La Marche du Monde. Il est un ancien maquisard de l'armée de libération algérienne et il nous raconte sa guerre, tout comme Bernard Gerland, ancien appelé de l'armée française, nous raconte la sienne. Un reportage de Daphné Gastaldi à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
Du monde. Valérie Nivelon.
Sur Suite du reportage de Daphné Gasteldi consacré aux anciens combattants français et algériens prêts à se réconcilier. Nous retrouvons Sba Berbaghi dans son appartement de l'agglomération lyonnaise. C'est là qu'il ouvre l'album de son voyage retour sur les traces de ses années de guerre en Algérie. Un voyage motivé par une rencontre avec un Français dénommé Adolphe. Sba et Adolphe ont en effet découvert qu'ils se sont battus dans la même région, en petite Kabylie. Avec la complicité de Sba, son père, l'historienne Dalila Berbaghi a fait de cette découverte un livre.
Voilà mon livre. Guerre d'Algérie, destin croisé.
Sur la couverture du livre, on vous voit d'ailleurs. Qui est à côté de vous sur la photo?
Adolphe, ancien soldat appelé français. Ça, c'est l'histoire d'Adolphe. Adolphe, voilà, il était à l'armée. Il était dans, monté sur le Bourricou. Et ça, c'est dans le Jebel, dans les montagnes.
Donc ça, c'est un article du journal Le Progrès. Effectivement, on voit Adolphe chez vous. Retour de jeunesse en Algérie. Voilà. Il a raconté ce voyage à la presse.
Voilà, il a raconté à la presse.
Et là, donc là, on peut lire que Adolphe Hugon a passé 2 ans de guerre dans le Djebel algérien. Mm-hmm. 45 ans après, il est reparti sur les traces de sa jeunesse. Mm-hmm. Et il a été bien reçu par les Algériens. Les Algériens, c'est vous, Sba.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm.
Il y a eu une date importante au moment de ces recherches. C'est le jour où votre père a rencontré Adolphe, cet ancien appelé français, qui était dans la même zone que lui pendant la guerre d'Algérie. Comment s'est passée cette rencontre?
Donc en 2007, donc, mon père est donc, dans la Loire et ils font en fait une rencontre. Donc, c'est une connaissance de mon beau-frère et il présente en fait Adolphe à mon père. Et Adolphe lui demande à mon père, mais t'es originaire d'où en Algérie? Donc mon père lui répond, voilà, je suis de la région de Sétif, dans telle ville, telle commune. Après, il dit, ah bon, et tout, mais je connais bien, j'ai fait ma guerre d'Algérie là-bas. Donc ils échangent. Et tout de suite, en fait, Adolphe lui a dit, ah, mais c'est mon rêve, ça serait mon rêve de retourner en Algérie, parce que j'en ai vraiment gardé un souvenir, malgré voilà, la difficulté de la guerre, j'en ai gardé un très beau souvenir de merveilleux paysages et d'une population que j'ai beaucoup appréciée, même si c'était effectivement dans un contexte particulier. Ça m'a vraiment étonnée, quoi.
Et pendant la guerre, vous avez été sur le même front avec Adolphe?
On n'était pas loin de... Le petit Kabylie. On était tous les deux là, dans le petit Kabylie, mais lui dans le... Machin, dans le... Il m'a dit, lui qui m'a dit, « Oh merde, on a été la même région de... Toi, t'es à Falen, moi je suis... un ancien soldat français, on n'était pas loin, on était à côté, là, une trentaine de kilomètres à peu près, même pas. Moi j'étais dans la montagne, lui il était dans
le poste.
Dans le poste de la montagne aussi.
Et Adolphe, il n'avait pas un peu peur de retourner en Algérie?
Non, il était content, au contraire, il était très content. Même les gens, ils se sentaient très contents pour le voir, pour parler et tout.
L'histoire qui a été vécue par mon père et Adolphe, elle est assez spécifique parce qu'il y avait plein de coïncidences communes. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment la même génération. Si on est tous les deux en 1938, ils sont tous les deux d'une enfance rurale et modeste. Ils ont commencé leur guerre d'Algérie tous les deux en 1959. Ils l'ont terminée tous les deux en 1961. Puis c'est vrai qu'ils étaient aussi opposés l'un à l'autre à une cinquantaine de kilomètres à peine pendant la guerre.
Simple combattant, Sba et Adolphe ont vécu les mêmes opérations militaires. Sba du côté du maquis algérien et Adolphe du côté de l'armée française. Cela fait déjà 6 ans que la guerre a commencé, que la torture a été dénoncée et que les intellectuels et les politiques se déchirent sur le thème « Faut-il aller se battre en Algérie ?»
Alors, de 1959 à 1961, c'est une période où il y a eu vraiment énormément d'une accélération et une intensification des combats, avec notamment l'opération Châle qui a été menée dans la petite Kabylie notamment.
C'était l'opération Jumelle, c'est ça?
Voilà, l'opération Jumelle, et qui s'est déroulée donc, pendant cette période où tous les deux justement commençaient leur guerre d'Algérie. Donc c'était quelques mois après le début de leur guerre d'Algérie. Ils se sont trouvés donc, tous les deux en plein dans l'une des opérations militaires les plus lourdes et les plus difficiles Alors les plus difficiles, surtout du côté du FLN, hein, puisqu'ils ont été vraiment asphyxiés dans le Djebel, avec cette volonté justement d'empêcher leur ravitaillement par la population et de les forcer justement à quitter leur lieu de combat. Ils s'en sont sortis indemnes. Alors de ces opérations, effectivement, donc il y a eu aussi donc du napalm qui a été utilisé donc par l'armée française. Et effectivement, mon père, pendant cette opération-là, il garde un souvenir terrifiant qu'il raconte d'ailleurs souvent. Hein, c'est qu'il a vu en fait un de ses compagnons d'armes qui a été en fait brûlé au napalm juste à côté de lui, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a fait, 45 ans après la guerre, de tomber sur Adolphe, ce soldat français? Mmh. Et de partir avec lui en vacances en Algérie.
On ne peut pas tenir 100 ans dans notre âge pour tourner la page. Voilà. Mais c'est passé, c'est terminé ça.
Algérie, deux ennemis, une réconciliation. C'est le reportage de Daphné Gastaldi que nous écoutons aujourd'hui dans La Marche du Monde et nous découvrons ce qui a déclenché la volonté de témoigner de Sba Berbaghi et de Bernard Gerland. Pour Sba Berbaghi, c'est le long travail d'écriture de son histoire entrepris avec sa fille Dalila, mais c'est aussi, nous l'avons compris, la rencontre avec Adolphe, un jeune appelé français avec lequel il a fait le voyage de la réconciliation en Algérie. Réconciliation, c'est également le mot-clé pour Bernard Gerland et la condition pour pouvoir, à son tour, retourner en Algérie.
Je ne suis pas retourné en Algérie pour plein de raisons, et notamment parce que j'avais laissé la guerre d'Algérie derrière moi jusqu'à ce qu'elle me rattrape. Par contre, en tant que participant à la vie de l'association dite des 4 ACG, anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Quand il a été question de faire des voyages en Algérie, des voyages de la réconciliation, puisque ces voyages s'appelaient comme ça, ce n'était pas des voyages touristiques, c'était des voyages pour rencontrer des anciens moudjahidines et puis des gens de la société civile, notamment, si possible, des jeunes. Et puis aussi des associations que cette association, les 4 ACG, aide. Le fondement de cette association, c'est que les adhérents reversent l'intégralité de leur retraite du combattant, c'est-à-dire 700 euros par an, reversent l'intégralité de leur retraite dans un pot commun qui sert à réparer ce que nous avons cassé pendant la guerre d'Algérie. Alors, elle est donnée à des associations locales. Quand on rencontrait les anciens moudjahidines, donc nos homologues adversaires, en gros, on leur tenait le langage suivant. Il y a 50 ans, on est venu pour vous tuer. Donc maintenant, on vient pour vous serrer la main. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Bon, ben, très bien.
Quand est-ce que vous avez pris la décision de retourner en Algérie?
La décision, je l'ai prise quand j'ai su qu'il y avait un voyage qui avait ce sens-là, il y a 2 ans et demi. Aussi bien les anciens moudjahidines que même les jeunes nous disaient, mais... Oui, c'est fou ce qu'ils nous ont dit, quoi. D'abord, vous êtes les bienvenus, parce que vous êtes français. Oui, mais on est, il y a 50 ans, mais c'est pas... Oui, mais tout ça, c'est... Oui, puis c'était pas de votre faute, puis c'est pas vous. Comment c'est pas nous? Non, mais bon, c'était pas de votre faute. Oui, mais c'est la faute de la France. Oui, mais c'est pas la France. Ben, c'est qui, alors? Ben, c'est la colonisation. Alors, c'est ça, pour les Algériens, moi, ce que j'ai senti, hein. Donc, j'avais aucun stress sur l'accueil, et puis j'ai vérifié là-bas qu'on a été accueillis à bras ouverts, quoi, à bras ouverts.
Lors de ce retour en Algérie en 2014, vous êtes parti avec d'autres soldats français, anciens soldats français?
Oui, on était une vingtaine, oui. Et une scène un peu particulière à un moment donné, puisque on a rencontré un fils de martyr. Fils de martyr, donc un fils de combattant de la LN qui a été tué en opération. Et quand il a raconté son opération, il y a un de nous qui s'est levé, qui a dit Mais c'est l'opération où j'étais. Boum. Donc ce gars-là, dont j'ai perdu le nom, le fils de martyr, là, donc, lui a dit, ben écoute, si tu veux, viens chez moi ce soir, puis on scellera la réconciliation.
Pourquoi c'est important pour les anciens soldats français de retourner en Algérie?
Ça leur permet de régler un contentieux de conscience, d'une certaine manière de faire la paix.
Faire la paix, et d'abord faire la paix avec soi-même, c'est pour Bernard Gerland tout le sens du travail de mémoire commencé bien avant son voyage de retour en Algérie, effectué en 2014. C'est un travail de transformation de son expérience vécue en littérature. Car depuis plus de 20 ans, Bernard Gerland cherche les mots pour exprimer et apaiser sa douleur. Sa guerre d'Algérie lui fait mal, alors il l'écrit et il l'a dit.
Cette cassette, c'est l'enregistrement de juin 96 d'une représentation radiophonique, Radio Canu à Lyon. C'était au tout début, c'était, je dirais, une des premières représentations que je faisais. Et, alors, du spectacle, Ma guerre d'Algérie.
Une présentation très courte, donc, avant de livrer l'antenne à Bernard Gerland. Une page d'histoire livrée à 36 ans de distance, une tranche de vie à partager. J'avais 20 ans quand j'ai mis les pieds là-bas. Un témoignage comme une confidence, c'était en avril 61, ce jour-là. On n'était plus en colo. L'Algérie, sa terre, des gens, une mémoire qui se livre, la guerre les avait tous chassés de leur terre et de leur maison.
Ce chant est de Tao Samrouche. Tao Samrouche, qui est une chanteuse berbère.
Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter cette émission ?
Ben c'était les tout débuts. Quand j'ai fait cette émission, je ne pensais pas que 20 ans après, je continuerais, on s'est encore là à en parler, et que... On en serait à presque 400 représentations, quoi. Donc, puisque quand j'ai écrit le texte, donc automne 95, il était pour quelques amis et pour mes enfants, ce qui me permettait de pouvoir enfin parler de ce que j'avais vécu de lourd pendant la guerre d'Algérie. Mais voilà, ça devait s'arrêter là. C'est un besoin de la société française qui soit parlé de cette période et qui en soit parlé dans la transparence la plus grande. J'ai l'impression d'exercer une fonction de service public, tout à fait. C'est pour ça que ça continue. Mon nom, c'est Bernard Gerland. J'ai fait partie des appelés en Algérie, classe 59-2A. Ça veut dire que je suis né en 1939. Ça veut dire que je fais partie de la classe des 20 ans en 59. Incorporé à Clermont-Ferrand au 92e régiment d'infanterie. Les Auvergnats connaissent bien le 92e régiment d'infanterie. Et j'ai débarqué en Algérie en janvier 60, pour 2 ans. J'en suis revenu en janvier 62. Et j'ai été affecté là-bas au 117e régiment d'infanterie, la région de Blida, c'est-à-dire au sud d'Alger, je dirais au début de l'Atlas, au début des montagnes qui vont après jusqu'au désert en fait.
On replonge en arrière.
Oui.
Nous sommes en 1959. Mmh. Vous avez 20 ans et vous allez être envoyé en Algérie. Quelle est votre conscience de la guerre d'Algérie à cette époque ?
c'est une chose qui me travaillait pas mal l'esprit, d'autant que je voyais des copains partir. Mais j'étais persuadé que je n'irais pas, que de toute manière, quand j'aurais 20 ans, la guerre serait finie. Mais je m'intéressais quand même beaucoup. J'avais lu, entre autres, le livre d'Henri Allègue, La Question, le premier livre qui cause de la torture, qui, dès sa publication par les éditions de Minuit, a été saisi. Dans ma petite conscience politique, je considérais cette guerre comme injuste, comme inutile, mais je dirais que j'en savais pas plus que ça, quoi. Comme j'étais instituteur, quand même, j'étais quand même instituteur, et donc on a voulu me verser tout de suite à l'école d'officiers. J'ai refusé jusqu'au jour où on m'a dit, bon ben, puisqu'on ne peut rien tirer de vous, ben, vous partirez en Algérie par le premier bateau. Inch'Allah, j'arrive là-bas, on verra bien. Et ça, c'est le texte, oui, c'est le texte « Ma guerre d'Algérie » qui donne lieu au spectacle. Alors, la guerre. Pour la France, une guerre jamais déclarée. Jamais avouée, jamais nommée. Surnommée, ou plutôt non, sous-nommée, pour la banaliser. Maintien de l'ordre, opération de police, de sécurité, pacification. Drôle de nom pour une guerre. Les hostilités, les événements. Il aura fallu près d'un demi-siècle pour qu'enfin on l'avoue et qu'on l'ose nommer guerre.
Vous arrivez en 1960, vous avez 20 ans, vous êtes en poste de montagne. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote particulière sur vos premiers pas dans cette guerre ?
Il faut d'abord signaler que ce poste, c'était ce qu'on appelle un camp de regroupement. Le village s'appelait Aguitoun, au-dessus de Blida, dans la montagne. La méthode dite de pacification, c'était de déclarer les hameaux où ils étaient comme zone interdite, autrement dit terrain de chasse des Félagas. Quand je dis Félagas, je prends le mot que les Français disaient. Félagas, ça veut dire bandit. Mais les Algériens ne parlaient pas de Félagas, ils parlaient de Moudjahidine, c'est-à-dire révolutionnaires, enfin, maquisards, résistants. Voilà, Félagas, c'est... Il faut bien s'entendre sur les mots aussi. Hein. J'ai été assez rapidement chargé de l'administration. Donc, ce que je me souviens surtout, c'est de la contradiction entre ce que je faisais le jour, où je faisais, on va dire, de l'assistance sociale, et ce que je faisais la nuit, c'est-à-dire des embuscades, pour essayer de chasser le Félaga. Ou bien de temps en temps la journée, il y avait des journées, même des semaines, parfois des semaines entières, où on partait en opération, voilà.
C'était quoi les opérations qu'on vous faisait faire ?
Alors, moi j'en ai fait de deux types. Au tout début, quand j'étais dans ce poste, dans le village d'Aguitoun, au-dessus de Fondouk, pour ceux qui connaissent, nous ne faisions pas partie des troupes de choc. Puisque notre principal travail, c'était de tenir un poste et de gérer un camp de regroupement. C'était ça notre... Par contre, quand on allait en opération, on faisait ce qu'on appelait des bouclages, c'est-à-dire il y avait les troupes de choc qui, sur renseignement, allaient, si possible, à l'accrochage avec des bandes de l'ALN. Et puis, les troupes dont je faisais partie avaient comme rôle de faire le filet, la nasse, c'est-à-dire le bouclage. Voilà. Je suis resté un temps dans ce poste-là, le poste d'Aguitoun, et puis j'ai accepté ce que l'armée me demandait, à savoir de faire l'école de sous-officier. Je n'aurais jamais dû, mais bon, j'ai accepté. Et là, j'ai été versé dans une ARCA. Une ARCA, c'est une section opérationnelle de harkis. Et les harkis, c'est des civils d'origine algérienne enroulés comme supplétifs dans l'armée française.
En 1995, comme un effet de boomerang,
Vous le dites avec ces mots, vous avez eu une bouffée de mémoire.
Alors d'abord, j'avais, en 94, je crois, est sorti le film de Bertrand Tavernier, La guerre sans nom. 4h30 de film, où on ne s'embête pas une seconde, où il y a 25 appelés de la région de Grenoble qui témoignent, souvent pour la première fois, de la guerre d'Algérie. La plupart ne peuvent pas aller au bout, d'ailleurs les larmes leur viennent. Alors moi je me suis dit, en sortant, et moi. L'envie de poser mon bagage, notamment de l'exécution du prisonnier, puisque c'est ça surtout que j'avais sur la conscience. J'avais essayé des fois, mais ça n'arrivait pas à sortir. J'ai eu à exécuter un prisonnier dans ce qu'on appelait à l'époque une corvée de bois. C'est-à-dire on faisait croire au prisonnier qu'il allait ramasser du bois. Il n'y croyait pas, mais nous, on croyait qu'il y croyait. Et puis, on l'exécutait comme ça, dans le dos. C'est-à-dire, contrairement à toute loi de la guerre, puisque la guerre, c'est terrible, mais il y a des lois. Il y a néanmoins des lois. La Convention de Genève a formalisé un certain nombre de choses.
Vous avez quel âge ce jour où vous devez exécuter un prisonnier ?
J'ai 21 ans. Oui, à peu près. Oui, 21 ans.
Et vous avez quel âge aujourd'hui ?
77.
C'était qui ce prisonnier ? Vous vous rappelez ?
Ah ben c'était le chef du coin. Le chef d'une... Alors je ne sais pas exactement son grade, ni son pouvoir, sa surface de responsabilité, mais c'était un chef... moi, depuis que j'étais en Algérie, j'en avais toujours entendu parler. Le jour où on pourra le mettre hors de combat, le jour où on pourra le coffrer, quoi, le coincer, ça sera un grand jour. C'est pour ça que je dis dans le texte, je lui fais en même temps son hommage, je dis que c'était un grand résistant, un chef de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, recherché depuis 5 ans dans tout le massif, un symbole pour les deux camps, un symbole pour vis-à-vis de ses combattants et vis-à-vis sûrement de sa réputation du coin, et un symbole pour l'armée française aussi. Et je dis, devenu là-bas héros et martyr. Donc, vous allez me dire, ça m'est facile de lui rendre hommage maintenant. Ça m'est très facile. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Voilà, c'est... Et c'est longtemps après que je suis revenu sur moi en essayant de comprendre cet homme que j'avais été à 20 ans et que j'avais du mal à reconnaître, quoi. Et puis y a la honte. Et la honte de ce qu'on n'a pas fait, ou de ce qu'on a fait, ou de ce dont on a été témoin, ce qu'on a accepté. Et puis il y a la chape de plomb de l'État. L'écriture, ça a été ma thérapie.
Bernard Gerland, vous avez aussi ce spectacle « Ma guerre d'Algérie » sur les planches. Mmh. Comment réagit le public qui vient vous voir ? Parmi eux, parfois, il y a des anciens combattants algériens, des anciens du FLN.
En général, très bien, sauf exception, mais ils voient ça comme un travail de réconciliation.
Algérie, deux ennemis,
Une réconciliation, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, proposé par Daphné Gastaldi, réalisé par Sophie Janin. Vous retrouverez toutes les infos bibliographiques de cette émission sur notre page RFI.fr. N'hésitez pas à réagir sur la page de notre Facebook, podcaster cette émission, c'est la vôtre.